Vous écoutez Radio Show Football, la bande à Baggio, l'émission 100% foot.
Les Brésiliens sont en blanc, à Mehdi Pelé. Ça débute, fabuleux.
On retraite, c'est bien fait.
Allez mon petit bonhomme.
It comes for Cantona! I don't believe it!
La frappe de Neymar!
Quel but!
Le face-à-face! Ouais! Et voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute!
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille!
Bonjour à tous, donc on se retrouve pour le premier podcast de la saison pour la Coupe du Monde. Ce soir j'ai Nico avec moi, pardon, comment tu vas Nico?
Salut à tous, bah écoute ça va très bien, je suis content, ça y est la Coupe du Monde est lancée, toujours un peu d'excitation lors du début d'une Coupe du Monde, voilà donc show must go on quoi, comme on dit.
Ouais, c'est vrai que la Coupe du Monde a commencé hier par cette cérémonie d'ouverture qui a été émaillée d'un petit geste de Robbie Williams qui était un peu incompréhensible. Mais sinon, j'ai trouvé que cette cérémonie d'ouverture, c'était une des plus faibles, je sais pas moi, dans l'histoire qu'il y a eu. Je me souviens, il y a des trucs qui duraient une heure, deux heures, même voire un jour en 98 avec des géants qui marchaient dans les rues. Là, on a eu un medley de trois chansons. C'était assez surprenant, assez expéditif. Alors, je ne sais pas si après, il y a des choses qui se sont passées hors TV, hors caméra. Toi, tu l'as vécu, cette cérémonie d'ouverture
ou... Ouais. Bah, écoute, ouais, je l'ai regardé. Je me suis vraiment dépêché de sortir du boulot pour justement voir cette cérémonie. Bon, après, elle ne m'a pas déplu par rapport à ce qu'on a pu voir en 2016 ou autre. C'était pas la pire non plus, mais voilà, même ma femme qui a regardé un petit peu, elle me dit c'est déjà fini. Bah, j'ai dit ouais, c'est bizarre, ça dure une demi-heure. On voyait un Robbie Williams un petit peu, je sais pas s'il était énervé, mais je sais pas, il était pas très souriant, je sais pas comment je l'ai trouvé, mais je l'ai pas trouvé agréable en fait, c'était bizarre. Je trouve qu'il a rapidement fait son truc et à mon avis, après il s'est barré, quoi, je sais pas, mais. C'était bizarre, ouais, cette cérémonie d'ouverture.
Ouais, c'est vrai que d'habitude, on est plus dans l'excès, le folklore, etc., avec des danses, avec des... Enfin, il y a plein de choses, des feux d'artifice, des ballons qui volent dans le ciel. Et là, on a eu un truc qui me rappelait un peu, je sais pas, moi, une Coupe des Confédérations. Pour moi, c'est la Coupe du Monde, je veux dire, ça doit être spectaculaire. Et finalement, on s'est retrouvé avec un truc... Enfin, très rapide, quoi. Après, Robbie Williams, il a assuré au niveau chanson, il n'y a rien à dire. Hein. Il a fait un duo avec la... Comment dire, la...
Ténor, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de son nom.
Tu me poses une colle aussi. Mais voilà, après, on a vu rapidement les équipes s'échauffer. Et puis, on a eu ce match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Alors, pour moi, personnellement, qui ai vu pas mal de matchs d'ouverture, pour moi, c'était un des pires matchs. Même le 1-0 qu'il y a eu Allemagne-Bolivie en 94, pour moi, il était meilleur.
Ah, c'était meilleur. Là, franchement, tu vois que l'Arabie Saoudite, à chaque fois qu'ils participent à une Coupe du Monde, ils se prennent minimum 4 buts. On ouais. Se rappelle en 2002 contre l'Allemagne, ils s'étaient pris un 8-0 dès le premier match. C'est vraiment très 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 faible. Ça prouve malheureusement que le football asiatique, il n'y a pas énormément d'équipes. On retrouve toujours les mêmes en fait finalement qui se qualifient. Et l'Arabie Saoudite fait partie des plus faibles équipes à se qualifier pour une Coupe du Monde, quoi.
Ouais, bah c'est sûr que le fait que déjà tu as un match d'ouverture avec cette équipe-là qui est mise en valeur et qu'ils n'assurent pas, tu te dis qu'en 2026, où justement tu auras un trio avec trois pays qui vont organiser une Coupe du Monde à 48 équipes, et ça va être une catastrophe au niveau des
Oh
scores.
là là, ça va être nul, mais ça va être nul, franchement, j'espère vraiment qu'ils vont changer d'avis, quoi, et puis pas nous faire une Coupe du Monde comme ça à 48 équipes, parce que franchement, il va y avoir des matchs inintéressants, quoi.
Ouais, bah c'est vrai que c'est mal parti, hein, parce que j'imagine même pas un Espagne-Île-Féroé ou quelque chose comme ça, hein, ça va être assez
Ouais, c'est
catastrophique.
sûr, c'est
Et
sûr.
même au niveau de l'intérêt, je veux dire, pour les spectateurs, hier on a vu un match techniquement très très pauvre, avec au niveau des enchaînements de passes, ça a duré 20 minutes le match pour moi, 20 minutes, et puis après, bon, c'était l'Arabie Saoudite. Alors soi-disant, c'est une équipe qui s'est préparée avec des clubs anglais, c'est-à-dire il y a des joueurs qui sont partis à West Ham, à Arsenal, comment dire, s'inspirer des techniques d'entraînement, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont été en boîte ou quoi? Parce que,
Ah, je sais pas,
faut
aucune idée.
m'expliquer. Ils n'ont pas joué au football.
C'est sûr. Il y a Yannick qui nous a rejoint, du coup, du Cameroun. Salut Yannick.
Allô?
Allô? Ouais, salut Yannick.
Ouais, salut, salut à tous.
Salut à tous. Salut Yannick, comment tu vas?
Ça va?
Est-ce que tu as regardé un peu le match d'ouverture hier alors?
Ouais, j'ai regardé tous les matchs.
Et qu'est-ce que tu en as pensé du Russie-Arabie Saoudite?
Bon, comme on a dit lors du dernier podcast, il n'y avait pas une grande surprise. Donc, au début du match, la Russie a essayé de dominer. Bon, en face, on a vu une équipe quand même modeste d'Arabie Saoudite. Donc, il n'y avait pas grand-chose à dire dessus. La Russie qui a gagné 5-0. Bon, le score aussi, c'était un score. Il est bien vrai que le score a été beaucoup plus immense que prévu. Mais bon, pour moi, c'était un peu une surprise. Donc,
Ouais, c'est une évidence pour tout le monde. Et on pensait pas vraiment que la Russie allait développer un football aussi pauvre. Pour moi, la Russie que j'ai vue il y a un an à la Coupe des Confédérations, bah pour moi, elle n'a pas progressé. C'est la même équipe avec aussi peu de qualité technique. Pour moi, c'est un leurre ce match parce que finalement, quand ils vont rencontrer une grosse équipe, la Russie, ils vont être en perdition hein, parce que on a vu
c'est sûr.
énormément de fautes techniques sur plein de phases de jeu. Et moi, je comprends même pas que, je veux dire, l'entraîneur, etc., le staff n'est pas remis en question un peu leur façon de jouer. Alors peut-être qu'il y avait un stress du match d'ouverture, bien sûr, ça peut jouer, hein. Mais j'ai trouvé le match très très pauvre, hein. Après, je ne sais pas ce que toi t'en as pensé, Nico.
Ouais, bah c'est pareil. Franchement, le match au début, bah, je l'ai regardé. J'ai regardé la première période et puis la seconde période, je l'ai vraiment regardé d'un œil parce que c'était pas du tout intéressant. Il n'y avait pas du tout d'ambiance dans le stade aussi. Pourtant, c'était le pays hôte. D'ailleurs, là, actuellement, il y a Iran-Maroc et il y a beaucoup plus d'ambiance. J'ai même été étonné qu'il y ait beaucoup plus d'ambiance. Là, pendant les 15 premières minutes, on écoutait des espèces de vuvuzelas, des trucs comme ça, des supporters chanter. Hier, franchement, le match, il était soporifique. Il n'y avait pas d'ambiance. L'équipe de Russie, bah, elle est faible. L'équipe d'Arabie Saoudite était très faible. Voilà, donc, comme tu dis, pour moi, c'est pas une surprise pour la Russie. Mais bon, bah, contre les équipes, contre l'Uruguay, contre l'Égypte, bah, on va voir ce que vaut vraiment la Russie parce que voilà, pour moi, la Russie, elle va pas passer le premier tour de toute façon, à moins qu'il y ait une aide de je ne sais où, ou grâce à ce 5-0, ça peut aussi leur permettre de faire un match nul et peut-être de se qualifier après. Pour moi, la Russie, elle est faible quand même, quoi, hein, parce que ce score, il reflète rien du tout, quoi.
Ah, rien du tout. Il y a deux, trois bons joueurs qui se sont mis en valeur, comme Golovin et Tcheryachev. Zagoyev qui s'est blessé aussi pendant le match, qui était pas mauvais, mais il a l'air un peu vieux. Il m'a fait penser à Toulalan. Par moments, j'ai eu un peu pitié de lui parce qu'il se mettait à courir, fait des accélérations et tombait par terre. Donc je me suis dit, soit il est fatigué au bout d'une demi-heure, soit techniquement il a du mal. Mais c'est très mitigé l'impression que j'ai eue sur cette équipe-là. Toi, Yannick, comment t'as perçu un peu les joueurs russes pendant ce match?
Oui, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, le début du match était un peu était un peu beaucoup plus, était un peu très naze, je dirais. Bon, je dirais plutôt que c'est le coach qui a su faire ce qu'il fallait. Donc, les deux buteurs, déjà, on a Chef et l'autre qui était sur le banc. Donc, pour moi, c'est le coach qui a su faire ce qu'il fallait. Donc, bon, ce qui est sûr, je pense que la Russie va passer parce qu'ils sont quand même à domicile et il y a le public et tout. Donc, pour moi, on verra lors des prochains matchs, mais je pense que la Russie a intérêt à passer, surtout comme ils ont gagné leur premier match 5-0, ça va les galvaniser et pour la suite, ils vont tout faire pour passer.
Mais au témoin d'un doute, je crois que ce 5-0, c'est peut-être le plus gros score qu'il y ait eu d'un match d'ouverture, non?
C'est possible, hein. Moi, personnellement, j'en ai pas vécu un.
Qui était pire que ça, mais au niveau du score, 5-0.
Bien sûr, ouais.
Moi, j'ai pas souvenir qu'il y avait eu un match avec autant de buts, un match d'ouverture, voilà, avec autant de buts, quoi. Enfin, au moins dans le football moderne, après, peut-être que dans les années 30 à 58, je sais pas s'il y a eu des gros scores comme ça, mais pour moi, c'est la première fois que je vois ça, mais ça montre vraiment la faiblesse de l'Arabie Saoudite, de toute façon.
Ouais, c'est évident.
Ils ont eu combien d'occasions? Ils ont dû avoir que deux occasions, l'Arabie Saoudite, hein, à tout casser. Hein.
Ouais, au début du match, ils ont fait 2-3 centres qui sont pas arrivés où il fallait, mais c'était jamais des choses dangereuses. Hein. Il n'y a pas eu. Moi, j'ai pas souvenir. Après, je peux te dire que franchement, à la mi-temps, j'ai pris un coup sur la tête. Je me suis dit, attends, c'est une Coupe du Monde ou c'est qu'est-ce que c'est? Parce que ouais. Le niveau de jeu, je veux dire, déjà à l'Euro 2016, c'était assez faiblard pour certaines équipes. Et là, on est en Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'on est censé avoir les meilleurs joueurs mondiaux. Moi, pour l'instant, j'ai vu aucun joueur mondial capable de prétendre au top 50 des meilleurs joueurs du monde. Quoi. Là, je ne sais pas la Russie, combien est classée la Russie au niveau des équipes nationales, mais ça doit pas être, ils doivent être très très loin du top 20, top 30 hein, à mon avis. Hein. Donc je sais pas, faudrait
regarder. Sûrement, classement FIFA, je vais regarder. Ils doivent être assez bas hein, de toute façon.
Assez bas, ouais. Non, sinon au niveau du public, bon, c'est pour un match d'ouverture, le stade était rempli. Par contre, là, on a eu un Uruguay-Égypte aujourd'hui. Et malheureusement, le stade, il y avait pas mal de places libres. Alors, je ne comparais pas ça à l'Euro 96 où vraiment il y avait des tribunes complètes vides. Mais
là, c'était une erreur de.
C'était une erreur de billet.
Voilà, c'est ça.
Et Uruguay, Égypte, qui était d'un niveau largement supérieur à ce qu'on a vu hier. Au niveau de l'engagement, surtout la deuxième période, parce que c'est vrai que la première période du Uruguay-Égypte, malheureusement, c'était beaucoup des combats physiques avec justement le fait que Salah soit sur le banc de touche. Heureusement qu'il ne soit pas rentré en première période titulaire, parce que je pense qu'il aurait pris des mauvais coups. Et les Uruguayens attendaient que ça, à mon avis, hein, de le saquer.
De toute façon, l'Uruguay a toujours tendance à mal débuter ses matchs d'ouverture. Je me souviens, en 2014, ils avaient perdu contre le Costa Rica. Ils avaient dû faire, en 2010, un match nul, le premier match. Si je ne dis pas de bêtises, ils ont toujours eu du mal à entamer leur premier match. Ça s'est vu aujourd'hui aussi. Hein. Ce n'était pas terrible. Bon, ils ont réussi à marquer en toute fin de match. Mais ça aurait pu être un 0-0 mérité aussi. Hein.
Ouais. 0-0 mérité peut-être pour l'Égypte, on va dire, mais malheureusement, il n'y a pas Mohamed Salah et c'est comme si tu enlevais Messi à l'Argentine, quoi. C'est énorme.
Suarez, il n'était pas en forme non plus. Hein. T'as l'impression qu'il a pris 5 kilos, le gars. Il a grossi, Suarez.
Mais Suarez, j'ai une question pour vous. Depuis quand il a pas fait un bon match?
Cette année, ça n'a pas été sensationnel. Toi Yannick, je sais que bon, toi c'est pas trop Barcelone ton truc, mais Suarez il est en méforme hein, en ce moment, non?
Ouais, de mon côté, il n'y a pas eu une grande surprise parce que bon, l'Uruguay était favori et ils ont gagné. Mais sinon, déjà comme vous l'avez dit, le stade n'était pas assez plein, ce qui était étonnant. Surtout que c'était un match comme Égypte-Uruguay. le match qui est en train de se jouer entre l'Iran et le Maroc, je pense que le stade est assez plein.
Au début, pas trop. Hein. Au début, il y avait pas mal de places qui étaient vides. Après, j'ai l'impression qu'en deuxième période, il y a un peu plus de monde. Je ne sais pas si c'est je ne regarde pas trop en même temps, mais j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus plein qu'en première période, le stade.
Ouais, tout à fait. Bon,
pluie peut-être. J'ai l'impression qu'il pleut par moment et parce que j'ai vu des gens couverts et peut-être qu'ils ne restent pas en tribune basse. Ils vont plus haut un peu. J'ai l'impression.
Ouais, c'est possible.
Parce qu'à la mi-temps, il y a eu des changements, des gens qui sont parvenus par rapport au rond central qui est peut-être découvert au niveau du toit. Je sais pas. Enfin, bon, c'est juste mon impression. Ouais. Vas-y, Yannick, vas-y.
Oui, comme vous êtes en train de le dire, la Russie aussi a un fuseau horaire très, très varié. Donc, ça peut être la raison parce que moi, je me suis dit comment se fait-il qu'un match de Coupe du Monde, surtout le deuxième, le stade n'est pas assez plein. Donc, c'était étonnant. Bon, par contre, le match de l'Iran, quand même, je pense qu'il y a assez de spectateurs. Mais sinon, comme vous l'avez dit, Suarez n'a pas été au top de sa forme et également Cavani parce que je pense que Cavani a eu un seul tir au goal et bon, c'était cadré quand même, le gardien a arrêté. Donc, au début du match, déjà, c'était un peu un match naze où l'Uruguay n'arrivait pas à s'imposer, à développer son jeu. Donc, on avait beaucoup de déchets techniques. L'Égypte aussi qui n'arrivait pas à vraiment s'affirmer. Donc, le ballon allait un peu de tous les côtés. Bon, il y a eu l'occasion, la grosse occasion de Suarez qui aurait pu marquer dans le goal vite, mais il a loupé. On se demande comment il a fait pour louper cette occasion. Mais sinon, à un moment, on se disait que ça allait être un match nul. Parce qu'on était déjà à la 80e minute et le score était de 0-0. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Même si l'Uruguay a eu 4 tirs cadrés contre 3 à l'Égypte. Mais le total de nombre de tirs, l'Uruguay a eu 15 tirs face à 7 du côté de l'Égypte. Donc, d'un autre côté, on s'est dit que l'Uruguay quand même a mérité sa victoire. Donc, pour moi, comme on l'a dit lors du dernier podcast, juste avant celui-ci, donc l'Uruguay était favori et allait gagner. Donc, pour moi, la victoire n'a pas été une grande surprise.
Ouais, c'est une victoire qui est venue avec l'usure parce que les Égyptiens ils ont commencé à avoir des crampes à la 65e minute par là, c'était hyper étonnant. Alors, c'est peut-être qu'ils ont fait un gros travail physique en amont et justement, peut-être qu'ils vont être meilleurs sur les prochains matchs, mais là, j'ai l'impression que physiquement ils ont abandonné le match, ils n'ont pas pu gérer la fin de match, ils ont peut-être trop donné, trop couru. Et puis on s'est retrouvé avec une équipe d'Égypte qui pouvait plus du tout attaquer, qui a été retranchée un peu dans son camp avec des coups francs à répétition pour l'Uruguay. Vraiment Suarez hein, qui aurait dû ouvrir le score 2-3 fois avant justement le but de la tête. Et qu'avait...
Le plus flagrant, c'est le premier en première période, là, le ballon qui passe dans le petit filet. Il est quoi un mètre du but, il le loupe complètement. Ça prouve que lui, il est en méforme en ce moment aussi. Quoi.
Complète, une méforme complète. Ouais. Mais même quand tu le vois jouer avec le Barça, hein, je suis désolé, mais c'est pas lui qui met les buts et qui finit les actions. Hein. C'est toujours Messi ou c'est toujours un autre attaquant du Barça, hein. Lui il est complètement à la ramasse depuis, je trouve, depuis le match contre le PSG justement là, il y a un an et demi là, il a perdu énormément, hein, je trouve. Hein. Il s'est un peu, je sais pas.
Il s'est ankylosé hein, déjà. Moi je le trouve un peu plus massif qu'un certain moment. Hein. Ça se voit avec le maillot, en plus leur maillot blanc qu'ils avaient, ça se voyait. Il a pris un peu de ventre hein, quand même, hein, je trouve.
Ouais. Et j'ai trouvé Cavani assez bon sur le peu d'occasions qu'il a, parce que malheureusement, l'Uruguay, c'est pas une équipe qui joue comme le PSG. Les ballons n'arrivent pas, il faut aller les chercher, il faut se battre au milieu de terrain un peu pour ramasser des ballons et les déposer sur les
un jeu très fermé. Hein,
c'est très fermé. Et puis, c'était très dur de se créer quoi que ce soit. Ouais, cette équipe d'Uruguay, c'est une équipe qui joue très défensivement. Ça me rappelle un peu... je sais pas, on n'est pas encore au niveau de l'Uruguay qu'il y avait en 2010 avec Diego Forlan. Ils sont un peu en dessous, je trouve. Ils sont pas. Ouais. Je pense pas qu'ils puissent aller plus loin qu'un huitième ou qu'un quart.
Bah, de toute façon, ce groupe-là, il n'est pas fini. Hein. La Russie peut gagner son deuxième match, mais la Russie peut perdre son deuxième match. Enfin, ouais. Tu vois, là, à l'heure actuelle, tu sais pas. Enfin, on a des doutes. On sait bien que l'Uruguay peut terminer première ou la Russie peut terminer première. Mais il peut y avoir des retournements de situation. Bon, je ne parle pas de l'Arabie Saoudite, hein, mais je pense que vraiment, la première place peut se jouer entre les trois nations, quoi.
Ouais, que tout le monde finisse à 6 points à la fin du match, et que les Saoudiens aient 0 points.
Bah oui, et puis ça se trouve, les Saoudiens, ils vont se prendre cattle sur cattle. Hein. Là, ils se sont pris 5-0 contre la Russie. Si l'Uruguay, elle joue parfaitement bien le match contre l'Arabie Saoudite, ça peut être une boucherie aussi. Hein.
Peut-être. Après, l'Uruguay, c'est pas une équipe offensive, donc... T'en penses quoi, toi, Yannick?
Ouais, bon, moi, je pense plutôt que ça va se jouer entre l'Uruguay et l'Égypte. Parce que pour moi, la Russie, pays organisateur, est déjà gagné 5-0 au match d'ouverture. Ça galvanise, ça motive. Donc, je pense qu'ils vont tout faire pour ne serait-ce qu'obtenir deux matchs nuls sur leur prochain match. Et pourquoi pas peut-être une autre victoire contre l'Égypte. Donc, pour moi, ça va se jouer juste entre l'Égypte et l'Uruguay. Donc, pour moi, comme on l'a dit, je pense que la Russie et l'Uruguay vont certainement passer dans ce groupe. Donc, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, ils vont se partager les dernières places.
Mmh. Ouais, c'est sûr. Et sinon, au niveau du match Iran-Maroc, pour vous, la première mi-temps, est-ce que ça mérite un vainqueur ou pas, Nico?
Excuse-moi, j'ai pas compris ta
question. Iran-Maroc, pour vous, est-ce que ça mérite un vainqueur pour le moment là?
Bah écoute, moi, pour moi, les 15 premières minutes de ce match-là ont été vraiment. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié. J'ai vu un Maroc qui était vraiment entreprenant, qui était à deux doigts de marquer un but. Tu vois l'Iran qui répond, qui a eu une occasion, là, il pouvait en contre marquer. Bon, ça risque de terminer sur un match nul, mais il peut y avoir un but. Et je pense qu'un des deux vainqueurs ne serait pas injustifié. Bon, je pense que le Maroc mérite plus pour le moment que l'Iran, mais pour moi, c'est un beau match là pour le moment. Tu vois, je m'ennuie pas. Hein. Je le regarde et je m'ennuie pas, quoi.
Ouais. Et toi, Yannick, t'en penses quoi de ce match?
Ouais, je pense que si on veut se référer au niveau de jeu, le Maroc aurait pu quand même mener en statistique avec la possession, le nombre d'occasions obtenues. Mais je me dis bien qu'au cours de ce match, s'il faudrait qu'une équipe gagne, ça ne sera que le Maroc. Donc, la victoire de l'Iran ici, c'est le match nul. Et nous savons aussi que le Maroc est la seule équipe qui n'a encaissé aucun but lors des qualifications du mondial. Donc, je ne pense pas que le Maroc puisse encaisser actuellement contre l'Iran. Donc, pour moi, soit c'est un match nul, soit le Maroc gagne.
Mmh, d'accord. Et ce soir, on a un gros match. On a le premier choc de cette Coupe du Monde. Enfin. Espagne-Portugal. Alors, logiquement, on va avoir du beau football. Sauf que dans la semaine, voilà ce qui s'est passé en Espagne. C'est que le sélectionneur espagnol a été limogé parce qu'il a signé entre-temps au Real Madrid. C'est fou, ça. Et c'est quand même fou. Qu'est-ce que tu en penses, Nico, toi?
Bah, mais il n'y a pas eu que ça. Hein. Bon, il y a eu ça, mais je trouve ça complètement dingue. Après, je pense que le Real, ils n'auraient vraiment pas dû faire cette conférence de presse en disant que c'était Lopetegui qui était le futur sélectionneur. Ils s'y sont très mal pris et malheureusement, Lopetegui, je ne pense pas qu'il ne demandait pas ça du tout. Quoi. Donc, surtout à deux jours de la Coupe du Monde, c'est quand même un sacré risque. Compris la fédération espagnole, hein. C'est un gros gros risque. Alors bon, il y a Fernando Hierro qui prend les rênes, mais il a aucune expérience, Fernando Hierro, hein. Et j'espère que ça va pas porter préjudice à l'Espagne, hein, parce que là, ça passe ou ça casse, quoi, tout simplement. Mais bon, il y a pas eu que ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Il y a Ronaldo en ce moment qui a des problèmes avec le fisc. Donc est-ce qu'on va voir un Ronaldo conquérant ce soir? Est-ce que ça va être le même Ronaldo qu'on a eu pour la finale et puis la demi-finale de, de Ligue des Champions. Je ne sais pas si ça va jouer sur son moral, mais donc il est condamné à verser 18 millions d'euros, puis il est condamné à quelques mois de prison ferme, mais il ne les purgera pas en prison, parce que la loi espagnole, tant que tu n'as pas 2 ans, tu ne les purges pas en prison. Donc voilà. Mais voilà, ça doit quand même foutre un coup sur le moral. Donc voilà, ouais, ça va être un match bizarre. Mais en revenant vraiment sur l'Espagne, enfin c'est un peu couillu de la part de la fédération espagnole. J'espère pour eux qu'ils ont fait qu'ils ont pris la bonne décision et qu'ils vont pas se casser les dents.
Ouais, bah je vous dis brièvement ce que j'en pense. C'est que le problème, c'est que les joueurs qui sont actuellement en sélection, Fernando Hierro les a pas choisis, donc il va se retrouver avec un effectif qui va devoir gérer et reformater. Alors il y a peut-être certains joueurs qui vont venir le voir en coulisses en lui disant « Attends, moi je veux jouer là, finalement je veux jouer ici ». Ça va créer des clans. Lui, il va pas savoir reprendre les directives que Lopetegui, parce que Lopetegui, il a pas laissé ses fiches, hein, faut pas croire, il s'est barré et puis c'est fini, quoi. Il a pas laissé des mémos en disant tiens bah mets-le là, lui il est bien ici, tu vois. Donc il a tout à regérer. Et puis à l'entraînement récemment, il y a eu également un échauffouré entre Sergio Ramos et le président de la fédération qui est venu voir les joueurs. Ramos l'a pris entre quatre yeux en lui disant que c'était irresponsable ce qu'il avait fait, et puis ils ont failli en venir. Voilà, ils ont été séparés et parés par Piqué, je crois. Enfin, je veux dire, il y a un autre problème aussi avec les joueurs du Barça et catalan, et puis les joueurs espagnols pro-madrilènes, etc. Hierro, c'est un ancien de la maison du Real, donc est-ce qu'il va pas mettre Iniesta sur le banc pour un peu mettre les joueurs du Barça de côté? On ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je pense que ce soir, on peut s'attendre peut-être à une défaite de l'Espagne, au niveau tactique surtout, quoi.
Ouais.
Yannick, t'en penses quoi, toi, de ce match ce soir?
Ouais, bon, comme les autres l'ont dit, ils ont bien énuméré les différents problèmes qui se posent. Mais personnellement, je pense que les problèmes de la fille de Cristiano ne vont pas affecter son moral. Parce que c'est quand même un pro et il doit certainement connaître comment gérer cela. On se rappelle bien qu'on avait condamné Messi. Quand la FIFA espagnole l'avait condamné, ça n'avait pas affecté sa performance sur le terrain. Au contraire, il était toujours le même. Donc, c'est un truc de pro. Ils vont connaître comment gérer. Maintenant, parlant du nouveau coach, Lopetegui, je me dis qu'il a sacrifié le son mondial pour le coaching du Real Madrid. Parce que comment comprendre qu'un coach à 2 jours du mondial est annoncé à la tête du Real Madrid et en signé? Donc, la nouvelle aussi, je pense que c'est venu dans les fuites, dans les, je dirais, les rumeurs. Donc, c'est venu dans les rumeurs et à une interview de presse, il y a une personne qui a lâché la nouvelle ainsi. Donc, et c'est où le Real directement a confirmé la nouvelle. Et quelques jours après, on l'a limogé de la sélection espagnole. Donc, je pense que du niveau du coaching aussi, ça ne va pas trop peser sur les joueurs de l'Espagne, parce qu'il est bien vrai qu'il va arriver trouver un effectif que ce n'est pas lui qui est constitué. Mais cet effectif-là, rappelons-nous qu'ils lui ont joué beaucoup de matchs amicaux ensemble. C'est un groupe soudé et ils s'entendent très bien. Il y a une très bonne coalition. Ils ont gagné l'Argentine 6-1. Donc, je pense que le nouveau coach doit tout juste arriver et continuer ce que l'ancien avait commencé. Donc, parlant du match également de ce soir, je ne sais pas trop pourquoi tout le monde est en train de voir l'Espagne s'imposer lors de ce match. Rappelons-nous également que le Portugal est champion d'Europe. Le Portugal a battu la France en finale. Donc, l'Espagne n'est pas très différente de la France en niveau de jeu. Donc, c'est deux équipes assez élevé. Si le Portugal a battu la France, pourquoi pas battre l'Espagne? Surtout que c'est son premier match de poule. Donc, le match de l'Iran également est à 0-0 pour le moment. Donc, si le match finit match nul, forcément, il y aura forcément soit le Portugal ou l'Espagne aura envie de gagner pour prendre la tête du groupe. Donc, pour moi, personnellement, je tiens un penchant pour le Portugal. Donc, je pense que le Portugal peut battre l'Espagne et va même gagner.
Bah, vous voyez, c'est exactement ce que je pense qui va se dérouler. C'est-à-dire que le Portugal elle va jouer en contre. Le Portugal de 2016, c'était très fort en défense, mais assez faible en attaque. Et là, on se retrouve avec un Portugal avec Guedes et puis Bernardo Silva, qui sont en... Et je pense que sincèrement, le Portugal est beaucoup plus armé pour battre des grosses nations en Coupe du Monde cette année. Rien à voir avec l'équipe de 2014 aussi, qui s'était fait sortir au premier tour. Franchement, là, le Portugal, ils peuvent atteindre l'écart, voire les demi-finales, je pense, cette année. Si...
Ah, puis ils sont attendus, hein, de toute façon, hein,
Bah, ils
ils
sont
sont dans
attendus. Je ne sais pas si on les attend. Je pense qu'on n'a
le...
pas envie de les rencontrer, en fait. C'est plus ça, tu
Ouais.
vois. Je vois
Ouais,
plus
et
ça.
aussi, je pense que Piqué est forfait pour le match. Donc, je sais pas trop les deux défenseurs centraux. Déjà, Ramos, on sait qui sera là. Maintenant, le deuxième autre défenseur, je sais pas trop celui qui sera titulaire. Bon, on verra. Mais sinon, je pense que le Portugal a plus le moral pour remporter ce match et est mieux armé même par rapport à l'Espagne.
Ouais. Mais également, on a des petites infos aussi sur l'équipe de France. Bon, on a
Ah,
vu
mais bien
récemment
sûr.
les irrésistibles Français qui sont arrivés à Istra après 70 heures de bus à travers les pays de l'Est. Et on a notre ami Joseph qui a voyagé avec eux. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir sur le site de la Fédération française sur YouTube justement la petite vidéo reportage de leur arrivée au camp de base de l'équipe de France. Ils ont été reçus par tous les joueurs, salués par tous les joueurs. On leur a offert une place pour le match à Kazan contre c'est l'Australie, c'est le premier
Ça,
match.
c'est vraiment vraiment sympa, franchement.
Ouais, c'est vraiment super sympa de leur part. Alors peut-être que c'était prévu, c'était organisé, c'est-à-dire qu'il y avait un petit pari avec la Fédé et puis les personnes qui faisaient le voyage en disant tiens, si vous venez, on vous offrira quelque chose, etc.
Bah, écoute, c'est toujours ça de gagner, hein. C'est sympa, je
Ouais,
trouve, hein,
bien
franchement.
sûr, bien sûr. Et puis voilà, on aura des nouvelles avec Joseph, je pense, qui sera notre intervenant là-bas en Russie pour le match à Kazan et le match c'est à Ekaterinbourg. Je sais pas si c'est le deuxième ou le troisième match contre le Pérou ou contre le Danemark, c'est la fin, je crois. Le Danemark, c'est le dernier match.
Oui, toujours le dernier match là, contre le
Ouais.
Danemark.
Ouais, il sera contre le Pérou, je crois. Voilà, France-Pérou à Ekaterinbourg. C'est le fameux stade, voilà, qui est en échafaudage, qui a été utilisé aujourd'hui pour Uruguay, donc Égypte. On a vu un peu le niveau impressionnant des tribunes avec des échafaudages qui vont jusqu'à 50 mètres de hauteur. C'est moi, je mettrais
Il
pas.
était bah et bah, moi j'ai pas eu le temps de voir le match, mais les tribunes étaient pleines ou pas
Oui, les tribunes, les virages étaient pleins. Ouais. Les virages étaient pleins, pleins,
Ouais.
pleins. Bon, je pense que c'est par rapport au prix surtout, hein, parce qu'on
Ouais.
se retrouve avec des places justement qui sont à ras du toit, vraiment abordables, hein, je pense, hein, pour une Coupe du Monde. Hein, mais c'est impressionnant. Moi, je pense que les gens qui ont été traumatisés par Furiani, ils peuvent pas aller dans un stade comme ça.
Non, c'est fou ça. Non, mais
Pour une
c'est
Coupe
clair.
du Monde, c'est inacceptable d'avoir des tribunes provisoires comme ça. Pour moi, c'est inacceptable. On a eu ça en 2014 au match d'ouverture aussi. Ils avaient cru des tribunes
Ouais.
au-dessus des virages. Pareil, la même histoire. Le stade des Corinthians.
Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est pas faux, ouais.
Et c'était beaucoup moins impressionnant, par contre. Mais là, ils sont partis assez loin là, dans le niveau de chantier, quoi. Enfin bref, on espère qu'il n'y aura pas de problème. Et puis voilà, quoi, que ça se passe bien. Vous voulez rajouter quelque chose sur l'équipe de France? Vous attendez quoi de
La
l'Australie?
compo, il y a la compo qui est tombée. C'est vite fait, hein, c'est vraiment. C'est la compo, c'est. Alors attends, je l'ai, là je l'avais, je l'ai perdu. Voilà, compo probable entre. Donc il y aurait Lloris en gardien de but, en défense il y aurait Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, milieu de terrain Tolisso, Kanté, Pogba, et en attaque Dembélé, Griezmann, Mbappé. Voilà,
D'accord,
un
d'accord.
peu le
Ouais.
truc. Donc je sais pas, toi t'en penses quoi de. Ouais, t'en penses quoi Yannick de cette compo?
Je pense que c'est une très belle compo, hein. Parce que cette année, comme je l'ai dit, je vois la France dans le dernier carré. Donc je vois la France peut-être jusqu'en finale. Parce que pour moi, la France est mieux équipée que les années précédentes. On se rappelle de 2010 et 2014. Donc, pour moi, cette année, la France est mieux équipée. Bon, il est bien fait qu'elle a quand même, une équipe assez jeune. L'absence de Benzema peut-être aussi qui va peser. Donc, pour moi, j'aurais quand même aimé voir une France avec Benzema en pointe. Mais je ne vais pas quand même... Je ne vais pas revenir sur le niveau de Giroud. Donc, pour moi, je pense quand même que la France est mieux, très, très bien, même très mieux équipée que les fois précédentes.
Toi, Nico, tu penses quoi de ce match? Est-ce que tu penses que l'Australie a une chance contre la France ou pas?
Ça va être compliqué. Je pense que la France, elle est quand même largement supérieure hein, à cette équipe d'Australie. Après, attention à ne pas tomber dans le piège aussi, hein, parce que l'Australie, bon, on ne connaît pas trop, hein, mais on sait que c'est toujours difficile de rencontrer l'Australie. Je me souviens encore de ce match en 2001, mais ça se passait en Australie, où la France, je crois qu'ils avaient fait un partout, que Muscat avait explosé la cheville à Dugarry, je me souviens. Après, maintenant, je ne sais pas... Je sais pas, mais je pense que l'équipe de France va marquer au moins deux buts. Je pense que l'équipe de France va bien entamer ce match-là. Et l'Australie va montrer des bonnes choses, mais je pense pas que l'Australie fasse quelque chose. Mais bon, attention, hein, faut vraiment se méfier hein, du début de match. Après, il y a Lloris qui est capitaine. Bon, de toute façon, je voyais personne d'autre hein, à part lui. Et puis l'attaque me plaît, hein, Dembélé, Griezmann, Mbappé, ça me plaît bien. Hein. Je pense que Mbappé et Dembélé, ils sont bien faits pour jouer ensemble. Griezmann qui sera là aussi, ça me plaît moi cette équipe de France en tout cas. Après avoir si Pogba fait pas n'importe quoi, ça peut être pas mal. On est bien armé pour battre cette équipe d'Australie quoi. Après l'horaire du midi, c'est midi en plus le match. Par contre, va falloir c'est une préparation qui est vraiment autre qu'une préparation d'un match de 15h ou 17 ou 18h quoi.
Ouais,
là, ils ont dû faire des entraînements, ils n'avaient pas l'habitude de faire des entraînements comme ça, quoi, je pense.
Mais le problème aussi, il y a des journalistes qui en parlent de ça, mais bon, moi je ne prête pas trop attention à ça. Mais c'est vrai que Griezmann, par rapport à son transfert avorté au Barça, là, il a un peu retardé l'échéance par rapport aux négociations. Et peut-être que ça
c'était nul, ça.
C'est nul parce que je trouve que déjà pour les supporters de l'Atlético, c'est un manque de respect. De pas annoncer ça à la fin de saison et puis de faire genre je m'en vais et puis finalement je reste parce que ils ont pas réussi à négocier ce qu'ils voulaient avec le Barça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il retourne à l'Atlético un peu à contre-cœur et puis il a besoin d'annoncer ça à la télé comme ça 2-3 jours avant le match de l'équipe de France. Il y a beaucoup d'immaturité dans tout ça.
Malheureusement, de toute façon, on va avoir droit à ça maintenant. Tout est basé sur de la télé-réalité maintenant, j'ai l'impression. C'est nul, je vois pas pourquoi faire autant de blabla juste pour dire finalement je reste. J'ai trouvé ça un peu vraiment bizarre. Je pense que Griezmann, il devrait trouver quelqu'un qui le dirige mieux, hein, parce que là, c'est un peu nul, hein, franchement, de faire un film de je sais pas une demi-heure à peu près juste pour dire bah finalement je reste quoi, c'est je sais pas donc voilà, bon bah écoute, il reste, après ça se trouve il va partir quand même hein, juste après la Coupe du Monde il va partir au Barça peut-être hein, j'en sais rien, mais tout ça pour ça quoi, j'ai envie de dire.
Ouais,
allô.
Ouais, salut Yesha, comment tu vas?
Ouais, ça va bien, excusez-moi du retard, je suis en plein boulot, mais voilà, il n'y a pas de client.
D'accord. Est-ce que t'as moyen de régler ton son au niveau de ton micro quoi?
Ouais, si, là, j'ai essayé de le faire, là. Depuis tout à l'heure, j'ai essayé de le faire. Là, je vous entends très bien.
D'accord. Bah, sinon, on va te demander ouais, rapidement, est-ce que tu as regardé la cérémonie d'ouverture et un ou deux matchs pendant tes heures de travail, je sais pas.
Ouais, j'ai regardé la cérémonie d'ouverture. Bon, j'ai vu un Robbie Williams faire un doigt d'honneur devant pas mal de monde. En plus, comme je suis en Angleterre, on en a beaucoup parlé.
Ouais.
Ensuite, ouais, bah, on a vu des petites célébrités. On a vu Ronaldo. Je parle du Brésilien. Ronaldo, Maradona, enfin voilà, d'autres célébrités. C'était pas mal, je pense, l'ouverture. Hein. C'était pas mal. Surtout, bon, avec ce qu'on connaît de la Russie, tout ça, bon, mis à part... la politique, on va la mettre de côté. Non, c'était une bonne ouverture, je trouve. Hein. C'est peut-être
quand même. Hein.
Bah, c'était trop rapide, ouais, c'est ça en fait.
Ouais, et puis le fait que les Russes n'aient pas ramené autant de célébrités de leur côté.
Ouais, c'est étonnant, il n'y a pas eu de gens du pays pour faire quoi que ce soit. Ouais.
Ah, ça m'a fait penser à l'Afrique du Sud quand on a ramené Shakira. Bon, elle n'a absolument rien d'africain.
Ouais.
C'est comme ça.
Mais après, ça, le truc, c'est que le football, il est vraiment secondaire en Russie. Hein. La Russie, c'est plus le hockey, c'est plus les sports de combat. Le foot, c'est beaucoup moins important. Alors, est-ce que les célébrités aiment le foot? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ce n'était pas. Enfin, voilà quoi, c'est un peu décevant quand même quoi.
Ouais, c'est vrai ça. Non, bah après, très bonne impression de la Russie. Bon, c'était le premier match dans la mesure où c'est les organisateurs, le pays organisateur. Donc le 5-0, on va dire, allez, c'est donné. Maintenant, non.
Ouais, c'est vrai.
Après, bon, maintenant, j'ai pas vu le match par contre de l'Égypte. Égypte Uruguay.
Uruguay.
Ouais.
Non, c'était un bon match, c'était un bon match, c'était niveau supérieur. Il y a eu 1-0 pour l'Uruguay en fin de match à la 86e, sur un coup franc de côté, excentré, et puis une tête dans la surface, voilà, sur le coup franc. Mais
Salah, il a bien joué.
Très engagé, non, non, non. Hein.
Salah, il n'était pas là. Quoi.
Non, Salah sur le banc de touche, ouais. Salah sur le banc de touche, donc voilà quoi. Mais sinon, est-ce que tu penses que toi, l'équipe de France va faire un bon mondial ou va avoir des difficultés contre l'Australie et puis les équipes de son groupe?
Alors, bon, attention à l'abus de confiance, déjà.
Ouais.
Parce que j'ai vu les équipes, normalement, ça passe maintenant. Maintenant, faut pas avoir, comme je viens de le répète, faut pas avoir de l'orgueil, hein, je veux dire, un abus de confiance.
De l'arrogance, ouais.
Ouais, non, parce qu'il faut vraiment jouer ces matchs. Voilà, pour montrer que le groupe il se passe vraiment bien, il faudrait gagner 2-0 tous ces matchs-là. Hein. Mais c'est vrai que 1-0, sachant qui est en face, voilà, ce serait pas très positif en sortant du groupe. Hein.
Mmh.
Bon, normalement,
il y a une équipe, ouais, c'est une équipe
voilà,
de seconde zone, quoi. C'est pas.
Voilà, s'il y a 1-0, alors s'il y a 0-0, s'il y a ne serait-ce qu'un 0-0 parmi tous les matchs qu'ils auront dans le groupe, c'est pas bon. Je trouve que c'est pas satisfaisant. Bon, on n'est plus en 2006, où on est sorti du groupe, où la France est sortie du groupe avec le Togo, je sais plus quelle équipe, il y avait des 0-0, et puis après.
Suisse, boum, Corée du Sud et Togo, ouais.
Mmh. Voilà, donc, et après, boum, ils ont explosé. Bon, il n'y a pas un Zidane dans l'équipe d'aujourd'hui.
Il n'y a personne pour les sauver vraiment, quoi. Il n'y a pas de patron. Ça, on n'arrête pas de le répéter, mais l'équipe de France, bon, il nous fait rire Pogba, parce que Pogba, il parle beaucoup, il fait beaucoup de côté
je crois pas
sportif, mais c'est pas un joueur de foot hein, qui est capable de prendre l'équipe en main. Ça, c'est...
Je ne crois pas. Bon. Je pense que Pogba n'a toujours pas. On a trop d'attentes sur Pogba, c'est-à-dire que le Pogba de la Juventus, il était sur un bon lancement, si je peux dire, si je peux appeler ça comme ça, il était dans une bonne lignée, mais depuis qu'il a quitté pour Manchester, je le sens plus marketing qu'autre chose. Je sais pas, hein, mais je veux pas être négatif parce que là, la Coupe du Monde, on est en plein dedans, mais.
Mais c'est le
on verra.
Tu sais, Pogba, je pense qu'il lui faudrait une grosse question par rapport à son football. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'un coach le mette sur le banc de touche pendant un petit moment, ou alors qu'il ait une grosse déconvenue pendant un match justement de l'équipe de France ou de son club, où il se fasse éliminer une grande compétition et qu'il arrive à comprendre qu'il n'est pas le joueur qu'il prétend être. Et actuellement, il montre rien, il montre pas ce qu'il prétend. Ouais.
En fait, Pogba c'est un peu un métronome. C'est un jour, on sait pas ce qu'il va faire. Il est sur le terrain, mais gauche droite, on sait pas. Des fois, il peut sortir un gros match, des fois, il peut sortir un match moyen. Et moi, je pense par rapport au marketing qu'il a, un marketing qui pourrait largement rivaliser avec un Neymar. Sur le terrain, on ne voit pas grand chose.
Ouais.
On critique Neymar, mais bon, marketing, ok, il y a beaucoup, mais sur le terrain, ça balance quand même.
Ah, mais
or Pogba, voilà, on attend toujours le nouveau Vieira, ça fait quand même 2-3 ans qu'on l'attend. Et puis là, ouais, leadership en équipe de France, je pense qu'il y a déjà Griezmann qui n'a pas l'intention de le laisser diriger l'équipe tout seul. Hein. Bon, je veux dire, il y a d'autres têtes d'affiches.
Ouais, mais regarde, tu vois, excuse-moi, je te coupe. Tu vois, Griezmann, on dit que c'est un leader. Mais c'est un leader par défaut, c'est-à-dire qu'on lui a donné le leadership parce qu'il n'y a personne d'autre qui veut le prendre aussi. C'est ça qu'il faut voir. Un mec comme Lloris, qui devrait être soi-disant capitaine, mis à part qu'il est dans
Exactement.
le vestiaire et dans le couloir, il gueule jamais sur le terrain, on ne le voit jamais
Non.
prendre la parole. Il fait
En fait, Griezmann, il est un peu victime de l'Euro 2016. C'est-à-dire que pendant l'Euro 2016, on a vu un nouveau joueur. Hein, bon, évidemment, il a été explosif. Hein, on ne va pas se mentir à l'Euro 2016. Donc, à partir du moment où il a été explosif, où il a été terminé meilleur buteur, la France, je dirais en tout cas les médias français, veulent que Griezmann devienne ce mal.
Voilà, c'est les médias qui lui ont donné ce
Bah oui,
leadership, hein. C'est même pas les
exactement.
joueurs, j'ai l'impression.
Non, mais toute proportion gardée, c'est-à-dire qu'ils veulent faire de Griezmann ce qu'est Messi pour l'Argentine ou ce qu'est Cristiano pour le Portugal, c'est-à-dire un leader médiatique.
Bah, il
Mais
en
ça ne veut pas dire pour autant, ça veut pas dire pour autant qu'il l'est vraiment. C'est-à-dire qu'on le met parce qu'il a la tête de l'emploi, il joue, je veux
qui
dire.
marque les buts, c'est
Non,
ça.
exactement. L'Atlético Madrid, on a vu qu'il se débrouille très très bien. D'ailleurs, dernièrement, il a dit qu'il ne quitterait pas. Bon, on attend la fin de la Coupe du Monde pour savoir ça. Mais en tout cas, voilà. C'est un leader par défaut, exactement. Je
Ouais,
corrobore ce que tu viens de dire.
voilà. Et toi, Nico, est-ce que tu vois un joueur capable de sortir l'équipe de France si jamais ils sont menés au score contre l'Australie?
Ouais, je dirais bien Griezmann, mais j'ai du mal avec cette équipe de France, moi, franchement. J'arrive pas à m'attacher comme j'ai pu m'attacher. Bon, tu vas me dire, c'était un autre foot avant, mais je sais
Quand on
pas
voit ceux qui
qui.
sont, quand on
Ouais,
voit ceux qui sont
vas-y.
laissés, non, quand on voit ceux qui sont laissés de côté,
Ouais, voilà, ouais. Je pense qu'il y aurait eu peut-être mieux, mais ouais, Griezmann, je vois que lui, hein, malheureusement. Je vois pas d'autres personnes en regardant vraiment la compo de demain. Il n'y a que Griezmann qui a de la bouteille avec Lloris, mais Varane un petit peu, mais voilà, mais bon, je sais pas, Griezmann. Mais j'ai écouté un mince, une info hier, comme quoi un numéro 7 français en Coupe du Monde n'avait jamais marqué. Le numéro 7, celui qui portait le numéro 7, ne marquait jamais en Coupe du Monde. Alors bon, j'espère quand même que ça va être faux. Alors qu'il y a un but là, il y a un but contre son camp du Maroc, je crois. Hein. Il y a l'Iran qui mène un but contre son camp du Maroc, en fait,
D'accord.
dans les
Et Messi.
dernières minutes. Donc, à mon avis, le Maroc, là, ils ont perdu, là.
Bah,
Donc,
toute chance.
à ça.
Ouais.
Non. Bon, c'est.
Voilà.
Voilà.
Bon, ok, les
Voilà.
gars, voilà, on va se quitter sur ça. Si jamais vous voulez rajouter un truc avant qu'on se quitte, je pense que sinon demain on débriefera l'Espagne-Portugal et puis le match du début d'après-midi.
Ouais.
Je vous laisse rajouter quelque chose si vous voulez, Yannick ou Nico.
Marcelo
Non,
Bielsa a
j'ai.
signé à Leeds.
Ah ouais, super.
Non, ça c'est de
J'ai
l'info.
pas grand-chose
à ajouter, juste que la surprise, c'est l'Iran. Parce que tout le monde ne voyait pas l'Iran battre le Maroc. En fait, moi, personnellement, je ne voyais pas l'Iran battre le Maroc. Le football est souvent, réserve souvent beaucoup de surprises. Donc, le Maroc, déjà, qui a une possession de 67% face à 33, 13 tirs au but, dont 3 cadrés, autant d'occasions, mais pas de but. Et à la fin du match, un défenseur du Maroc marque contre son camp.
Là,
Donc,
c'est terrible. Là, c'est vraiment terrible
ouais,
parce
c'est
que le
terrible.
Maroc, bah, je pense que beaucoup de Marocains se voyaient battre cette équipe d'Iran. Là, ça va être très très compliqué là pour le Maroc de, bah, s'ils voulaient tenter un petit, enfin, s'ils avaient un petit espoir pour passer en huitième de finale.
Bah, c'est fini.
Là, ça va être compliqué. Hein. Là, je crois que c'est fini malheureusement pour les Marocains. C'est vraiment sur un coup du sort. C'est vraiment dommage quoi.
Vont finir avec un bon zéro
Ouais.
pointé, je crois.
Ouais, malheureusement, ça sent un peu ça, ouais.
Voilà. Voilà. Bon, ok, les gars, on se retrouve demain alors pour ceux qui seront là.
Ok.
18h toujours, ça va être notre horaire un peu phare durant cette Coupe du Monde. On fera, je pense, à partir des huitièmes des débriefs après les matchs. Pour le moment, je pense qu'il y a trop de matchs à gérer par jour. Il y en aura trois par jour. Donc, je
C'est
pense
clair.
pas qu'on puisse faire trois
C'est clair.
débriefs après chaque match. Ça va être assez compliqué. On va
Et
essayer de
pourquoi pas essayer de
s'organiser.
faire des matchs en direct commentés comme on
Oui,
avait
bien
fait pour
sûr,
ces
ouais.
finales, pourquoi pas, ouais.
Ouais, on va essayer de commenter certains matchs. C'est vrai que l'Espagne-Portugal, c'était assez alléchant de le faire. On va y réfléchir, on verra, on vous annoncera si on le fait ou pas, je sais pas. Et puis voilà, quoi. Donc on se retrouve demain. Merci les gars.